On reçoit Amajit Belladj, bonjour.
Bonjour.
Marie Berthoud, bonjour.
Bonjour.
Vous menez la liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs pour cette campagne municipale 2026 arrageoise. Une liste soutenue par Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière. On va donc échanger avec vous autour de votre programme. Mais tout d'abord, on aimerait savoir comment se passe ce début de campagne pour vous.
Une campagne très dynamique pour nous, parce qu'on rencontre des gens avec qui on discute. Des gens qui sont mis sur la liste viennent avec nous sur les marchés, discuter avec les gens. Voilà, font équipe avec nous. On a commencé les collages ensemble là, cet après-midi. Voilà.
Ah, moi, je suis complètement d'accord avec mon camarade Amajit. Et puis, je trouve aussi que vu l'actualité, je ne sais pas ce que les travailleurs en pensent, mais moi, quand je me réveille le matin et que j'écoute la radio ou que j'écoute la télé, avec voilà, le Moyen-Orient qui s'embrase, la crise qui s'accélère, la menace des prix qui vont flamber, je me dis qu'on a bien raison. Voilà, bien raison de se présenter, bien raison de mener cette campagne, bien raison d'exister voilà, en tant que communiste révolutionnaire et de défendre les intérêts des travailleurs. Parce que finalement, nous, vous savez, on a écrit notre circulaire, en fait notre profession de foi que les électeurs recevront dans leur boîte aux lettres, courant janvier. Et une des premières phrases quand même qu'on a écrit sur cette circulaire, ça parle de la crise et ça parle des guerres qui menacent les populations à travers le monde. Bah, finalement, tout nous donne raison. Malheureusement, le système capitaliste, ça va de crise en crise, de guerre en guerre. Et finalement, dans les élections municipales, on défend le camp des travailleurs et on dit les travailleurs, s'ils veulent ne pas crever dans une guerre et ne pas crever dans la crise, il va falloir qu'ils prennent le pouvoir. Donc oui, moi je pense que c'est une campagne dynamique là, qui démarre et puis une campagne qui a toutes ses raisons d'être.
Alors, quand on vous a rencontré fin janvier, votre liste était déjà en finition et il me semble que c'est une liste en grande partie renouvelée. De qui est-elle constituée? Est-ce que c'est des personnes non cartées, des responsables associatifs, des habitants de différents quartiers?
Notre raisonnement, c'est de regrouper les travailleurs qui défendent leurs intérêts. Donc on a été chercher les travailleurs là où ils sont, discuter avec eux et leur dire « est-ce que ça te dit, toi, d'être de ceux qui vont vouloir ouvrir leur bouche dans cette situation ?» Ne pas admettre l'exploitation, ne pas admettre les prix qui flambent et les salaires qui suivent pas, ne pas admettre effectivement qu'on nous emmène tout droit vers la guerre. Voilà, le dire tout haut. Et ce sont des employés, des gens qui travaillent dans le ménage, conducteurs de poids lourds, voilà, des travailleurs.
Marie Berthoud, vous avez parlé un petit peu des premières phrases de votre programme. Parmi elles, je vous cite, « les autres candidats parlent d'embellir la ville, promettent plus de sécurité, de meilleurs logements ou des cantines moins chères. Que valent ces promesses quand toute la société va dans le mur ?» Fin de citation. Votre postulat à vous, c'est d'envisager une autre perspective de la société. Vous ne faites pas de promesses électorales. Est-ce que c'est une candidature témoignage ou vous vous situez encore comme un parti de protestation ou de contestation?
Les promesses des candidats et des autres, des autres listes ne valent pas cher. Voilà, c'est des promesses d'une vie meilleure à l'échelle locale. Moi, je demande à quoi ça rime toutes ces promesses, parce que le pouvoir, il n'est pas dans les mairies, dans cette société. Le pouvoir, il n'est pas à l'Élysée. Il est dans les grandes entreprises qui sont locales, nationales, internationales. Et pour leur profit, les grands patrons, ils exploitent toujours plus les salariés. Ils les prennent et puis ils les jettent au chômage quand ils en ont plus besoin. Ils baissent les salaires. Ils font faire le boulot de 3 ou 4 salariés à qui ils cassent le dos, le corps, les bras. Les patrons, ils organisent la guerre sociale et ils se préparent aussi à une guerre tout court. J'y reviens encore parce que c'est quand même dans l'actualité brûlante. Toutes les matières pour les matières premières, pour les marchés, pour récupérer des territoires et pour vendre plus d'armes, ils sont prêts à envoyer des travailleurs dans une nouvelle guerre mondiale. Et la guerre, pour eux, c'est un business qui se fait avec la peau des travailleurs. Donc, vu les enjeux entre la crise, la guerre, la catastrophe climatique, oui, on pense qu'il n'y a pas de solution locale. Il ne peut pas y en avoir. La seule solution, c'est de renverser cette société capitaliste et que ça soit les travailleurs qui dirigent la société et qui dirigent pour les besoins collectifs.
Cette campagne électorale, on l'a évoqué un petit peu avant, c'est un moment de rencontre aussi avec les Arrageoises et les Arrageois. Et est-ce que vous avez eu des échanges avec eux et qu'est-ce qu'ils vous disent justement quand vous les rencontrez?
Arrageois ou non Arrageois, les travailleurs ont beaucoup de choses à dire sur ce qu'ils vivent au quotidien. Je vous ai parlé tout à l'heure de leur capacité ou non de nourrir leur famille, d'envoyer leurs enfants à l'école, bref, de gérer leur vie au quotidien, les conditions de logement, etc. Donc ils ont beaucoup de choses à dire à Arras comme ailleurs. Et le point commun de tout ça, c'est on travaille pour enrichir une minorité qui, au final, nous demande à la sortie de continuer à payer et payer encore. On a entendu, ils ont cherché des chiffres sur ce qui avait été encaissé par les entreprises d'aide versées par l'État. Voilà, on est entre 211 et 270 milliards, ils ne savent même pas exactement le montant. Et puis surtout, ils ont du mal à déterminer ce que ça devient. À chaque fois, effectivement, ce sont les plus riches qui font la loi, c'est ceux qui possèdent tout qui font la loi. Les travailleurs, eux, la solution qu'ils ont entre les mains, c'est leur force, l'utiliser un jour pour remettre en cause ce pouvoir des grands bourgeois sur la société et eux-mêmes prendre les choses en main. Voilà.
Quand nous étions rencontrés en janvier, vous m'aviez répondu n'être ni une liste de gauche ni une liste de droite. On l'a compris, vous êtes une organisation avec des idées révolutionnaires. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas rallié les listes du printemps arrageois qui rassemblent 9 partis de gauche, dont les socialistes, les écologistes, les communistes ?
Pour toutes les raisons qu'on vient de donner. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas faire de promesses à qui que ce soit. On veut expliquer aux travailleurs que c'est à eux de prendre leur combat en main s'ils veulent changer ce qu'ils sont en train de subir. Donc, on ne se retrouvait pas dans une liste qui aurait fait un catalogue de promesses, quelle qu'elle soit. Ça, c'est la première chose qu'il y a à dire. Et puis ensuite, moi, je suis pour la pluralité des opinions. Hein. Quel est le problème, quoi, je veux dire, pourquoi faudrait-il absolument s'unir pour s'unir, alors qu'en fait, on a des choses différentes à dire. On a des choses différentes à dire, disons-les. Et nous, ce qu'on a à dire, c'est que c'est les travailleurs qui doivent changer la société. C'est pas des élus qui, du haut de je ne sais quel strapontin, parce que c'est des strapontins, c'est pas eux qui vont décider si Inersis décide de mettre en 3-8 ou d'embaucher ou de licencier, si la Scapartois, elle décide de faire venir des intérimaires ou pas. C'est pas les communes, les municipalités, les élus qui décident. C'est encore une fois ceux qui possèdent les moyens d'imposer leurs lois aux travailleurs.
Lors des dernières les élections municipales qui ont lieu en 2020, vous avez réalisé un score de 1,25%. Est-ce que vous pensez faire plus pour ces élections 2026 ?
Moi, je suis fière de ce score. Parce que déjà, il y a 6 ans, comme là, cette année, on a réussi à monter une liste. Et dans la période actuelle, moi je trouve qu'une liste de travailleurs qui ne se résignent pas et qui sont en colère et qui expriment cette colère, sans compter justement sur des relais politiciens, c'est une victoire. Alors évidemment, nous on se présente, tous ceux qui veulent exprimer cette colère en disant on ne peut compter ni sur les politiciens, même locaux, ni sur les patrons, et que c'est les travailleurs, nous, qui faisons encore une fois tout tourner dans cette société. Il n'y a pas un service, il n'y a pas un hôpital, il n'y a pas une usine, il n'y a pas un secteur où ce n'est pas les travailleurs qui font tout fonctionner. Si les travailleurs veulent l'exprimer, qu'ils votent, qu'ils mettent un bulletin de vote lutte ouvrière, c'est un bulletin de vote où, justement, ça ne sera pas des promesses, c'est la vérité. Voilà. Nous, on veut dire la vérité, on veut défendre la vérité, et cette vérité, c'est il y a 2 camps dans cette société. Il y a les patrons d'un côté, avec tous les politiciens qui sont à leur service, et il y a les travailleurs de l'autre. Et bien, si les travailleurs veulent pouvoir se compter, se regrouper, exprimer cette colère et exprimer leur camp qui vote en effet lutte ouvrière. Ça sera un bulletin de la fierté. Voilà. Nous, on propose ça aux travailleurs. Un bulletin de la fierté, un bulletin de la colère, sans promesse. Voilà. Sans aucune promesse que au conseil municipal, on améliorera le quotidien des travailleurs. C'est pas vrai. Voilà. La seule manière de sauver notre peau, ça sera de se battre collectivement. Voilà. C'est comme ça que les travailleurs, ils ont obtenu des choses dans l'histoire. C'est comme ça que les travailleurs, ils pourront obtenir des augmentations de salaire, des meilleures conditions de vie et de travail, mais aussi de pas, encore une fois, je répète, crever dans une troisième guerre mondiale. Bon, ça sera un bulletin de la fierté ouvrière.
Et un bulletin de combat. Parce qu'on nous demande en fait de mettre des bulletins de confiance. Ben nous, on pense qu'il faudrait mettre un bulletin de combat. C'est le combat des travailleurs qui pourra changer la société. Voilà, encore une fois, c'est pas des sauveurs suprêmes, comme le dit notre chant, l'international.
Alors la guerre, justement, ça revient justement dans le premier point de programme et un petit peu tout au long de celui-ci. J'allais vous demander quelques indications sur cette première déclaration du programme, mais vous m'avez déjà un petit peu répondu. Alors vous déclarez également que les politiciens défendent ce système capitaliste. Ils sont capables de détruire l'humanité, on vient d'en parler, de la planète. Quelles sont vos propositions pour remédier à ce fléau qui concerne l'environnement, la gestion de l'eau, le bien-être citoyen ?
Juste une petite rectification par rapport à ce que vous venez de dire. Ce ne sont pas les politiciens qui menacent la planète, ce sont les capitalistes.
D'accord. Qui sont soutenus par ces
politiciens. Alors, qu'ils sont soutenus ou pas, moi, je ne conteste pas que le fait que certains politiciens soient honnêtes souhaitent vraiment améliorer la vie des gens. Simplement, nous, ce qu'on dit, c'est qu'ils se trompent s'ils pensent qu'ils pourront le faire du haut de leur trapontin, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, il faudra des combats. Dans cette campagne électorale, pour nous, ce qui est important, c'est de mettre en avant la question de l'organisation des travailleurs. Pour changer leur sort, il faudra que les travailleurs s'organisent pour préparer des luttes collectives et au final, prendre en main les choses, qu'il y ait un nouveau 68. Ça se dit, hein, nous, quand il y a des discussions avec les gens, ce serait bien qu'il y ait un nouveau 60. Oui, nous, on pense aussi qu'il faudra un nouveau 68. Mais plus loin qu'un 68, il faudrait que les travailleurs qui sont en lutte, ils prennent en main les choses, qu'ils expulsent, pour le dire de manière très claire, le grand patronat, qu'on les exproprie, qu'on retienne pour nous les profits de guerre là, qu'ils sont en train de faire, que ce soit pour notre sort à nous, et qu'on fasse tourner cette société pour notre propre bien.
Et ça ne se joue pas à l'échelle locale d'abord ?
À l'échelle locale, pour moi, ça ne veut pas dire des élus qui changent la situation des travailleurs. Si on est à l'échelle locale, très concrètement, je parlais tout à l'heure d'Enercis ou de la Scapartois, ça veut dire que les travailleurs d'Enercis ou de la Scapartois, il faut qu'ils s'organisent pour défendre leurs intérêts. Ça veut dire que les gens qui habitent dans leur quartier, il faut qu'ils s'organisent pour défendre leurs intérêts, etc. C'est ça que ça veut dire pour nous.
Pardon, moi je voulais revenir quand même un peu sur justement la guerre et même les raisons des guerres là qui se...
Oui, voilà, parce que vous évoquez également donc, les guerres successives de l'Ukraine à la Palestine et l'Iran. Tout récemment, en passant, je cite, par le Congo et le Venezuela, est-ce que c'est évidemment le rôle d'un élu ou d'un maire, premier élu de proximité, on va dire, d'évoquer ce genre de conflits internationaux ?
Je le pense. Je pense profondément que, justement, le rôle des militants conscients, c'est de dénoncer et d'expliquer les raisons de ces guerres. C'est vrai que ça paraît étrange que dans une élection locale à Arras, où finalement la guerre, on n'en voit pas encore complètement les conséquences, nous, on insiste là-dessus, c'est les premières phrases de notre profession de foi et on y revient constamment. Alors déjà, première chose, c'est quand même que là, on est allé distribuer des tracts sur différents marchés, on est allé faire du porte-à-porte et ce qui inquiète les travailleurs, c'est la guerre. C'est les conséquences de la guerre, c'est les prix qui flambent ou qui menacent de flamber, c'est la peur de devoir envoyer son gamin à l'armée pour 800 euros, c'est les militaires qui viennent recruter dans les lycées. Donc c'est pas notre préoccupation à nous, c'est la préoccupation de l'État français là, aujourd'hui, de faire sa propagande et de nous mettre en tête qu'il faut qu'on se prépare, en effet, à défendre la patrie, à défendre la France, voilà. Alors d'abord, je voudrais revenir sur les raisons de ces guerres. C'est quand même les rivalités des impérialistes et la concurrence des capitalistes qui fait qu'aujourd'hui, le monde s'embrase. C'est quand même ces grandes puissances avec ces grands groupes, ces empires économiques qui, pour des matières premières, pour des territoires, pour des marchés, pour s'enrichir toujours plus, font une guerre commerciales, des guerres militaires, avec la peau des populations. Et moi, quand je vois la situation dans le monde, bah, finalement, les responsables, ce sont aussi l'État français, ce sont aussi les patrons et les capitalistes français, qui aussi exploitent les travailleurs ici, en France, à Arras ou alentour. Donc finalement, oui, moi je crois que c'est essentiel d'en discuter aujourd'hui. Je m'oppose y compris à la politique qui consiste à dire bah finalement ça c'est des grands problèmes qui seront gérés par des politiciens, des experts de la politique, vous les travailleurs vous préoccupez pas de ça, préoccupez-vous d'une piste cyclable ou d'un parc à côté de chez vous où il y aura plus d'arbres et laissez-nous faire. Ben non. Non, justement, on a laissé le pouvoir aux mains des capitalistes et des politiciens. Bah voilà ce qu'ils en font. Voilà. Ils font de la société un cimetière, une société en crise perpétuelle. Ben non, nous, à l'échelle, y compris locale, on dit aux travailleurs, bah ça suffit le capitalisme, il faut qu'on prenne les choses en main, parce que sinon, y compris, Arras, ça ressemblera peut-être à une ville comme en Ukraine, ou ça ressemblera peut-être demain à Gaza.
Est-ce que dans une autre société possible, sans révolution, est-ce qu'il ne faut pas envisager une autre forme de démocratie locale, plus démocratique, avec plus de collectifs, plus de référendums ou de concertations pour mieux répartir les richesses finalement ?
Qui va s'occuper d'organiser ça ? Parce que moi, les projets d'idéal, sociétal, tout ça, moi, pourquoi pas ? Tout le monde a son idée sur la façon dont la société doit être organisée. Seulement, il y a juste un hic, c'est que personne n'a le pouvoir de le faire. Et nous, on dit que ceux qui auraient le pouvoir de le faire, c'est ceux qui, aujourd'hui, travaillent pour les plus riches, fabriquent leurs profits pour finalement une société, effectivement, qui va à l'encontre des intérêts de tout le monde. Nous, régulièrement, on rencontre des travailleurs qui disent « Moi, mon boulot, il me dégoûte. On me fait faire des choses que je ne veux pas faire. Pourquoi » Pourquoi ? Parce que le problème du patron, ce n'est pas de réaliser, de rendre un service réel. Le problème du grand patronat, c'est de réaliser un profit sur ce qui est fait. Donc on est prêt à vendre de la camelote, on est prêt à faire travailler le personnel de la santé ou de l'éducation dans des conditions déplorables à partir du moment où on réalise un chiffre d'affaires. Ben c'est ça qui ne va pas. Donc il faut que ceux qui sont au cœur du système et qui sont concernés par le fait qu'eux, au quotidien, ils aimeraient bien que leur boulot serve à quelque chose, et ben, qu'ils prennent ça en main et qu'ils l'organisent eux-mêmes.
Alors, un point dans votre programme également, rejetons le racisme, je cite, l'antisémitisme, la xénophobie et tout ce qui divise les travailleurs. C'est le capitalisme qui est encore le problème, mais du coup, je vous pose cette question, on regarde l'actualité, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les partis sont à l'origine d'une division des travailleurs, justement, que la gauche est tombée dans le piège tendu par la droite, l'extrême droite, avec la marginalisation forcée de la France insoumise, par exemple ?
Oui, alors, là-dessus, donc il y a quand même une actualité aussi en effet brûlante avec la mort de ce militant à Lyon. Nous, évidemment, on trouve que c'est tragique. On condamne, c'est pas condamné, c'est une mort tragique, voilà. Moi, ce que je trouve triste aussi, c'est qu'un jeune d'une vingtaine d'années s'organise avec des militants d'extrême droite nationaliste pour aller taper d'autres militants qui, eux, défendent quand même le fait qu'il y a une boucherie à Gaza, il y a un génocide à Gaza. Bon, bah, des jeunes qui, aujourd'hui, sont tellement nationalistes qui vont casser... qui s'organisent pour aller casser ça, ouais, bah moi je trouve ça triste. Et je condamne par contre aussi toute la campagne qui a été faite sur la violence de Mélenchon, de la France insoumise, et puis du coup, bah, on oublie complètement la violence de l'extrême droite, on oublie complètement la violence des groupuscules identitaires qui sont eux à l'œuvre depuis des années, voilà. La minute de silence, c'était quand même une vaste blague, parce que quand il y a des travailleurs qui meurent au travail, il y en a 3 par jour, il n'y a pas de minute de silence. Quand il y a des groupuscules d'extrême droite qui tapent ou même qui assassinent des immigrés, là, il n'y a pas de minute de silence. Je pense que là, c'est une opération politique, à la fois pour redorer le blason de l'extrême droite et pouvoir permettre une alliance droite-extrême droite bien propre dans ce qu'ils appellent l'arc républicain. C'est aussi un message envoyé de la part de tous ces politiques et de l'État français pour dire si vous contestez les positions de l'État français à l'échelle internationale, vous êtes plus démocratique, vous êtes plus dans l'arc républicain, vous êtes, ce que disait une députée, anti-France. Bon, c'est quand même l'argument de Vichy, ça. Hein. C'est aussi un message envoyé à tous ces militants, à tous ceux qui acceptent pas de voir un génocide à la télé se dérouler sans rien faire, en disant, maintenant, vous marchez au pas. Mais ça va aussi avec toute l'ambiance de cocorico et de patriotisme qu'on entend aujourd'hui de plus en plus, et notamment parmi la jeunesse, qu'il va falloir se préparer à défendre la patrie, à défendre l'économie française, à défendre la veuve et l'orphelin, à défendre les valeurs de la France. Et quand même, les guerres, à chaque fois qu'elles ont lieu, c'est toujours au nom de la démocratie contre la barbarie. C'est toujours la gentille colombe qui arrive dans un monde... Trump, au moins, lui, il assume, il dit non, c'est pour les matières premières. Voilà, tout le monde a compris là, que le Venezuela, que l'Ukraine, c'était pour les matières premières. Eh bien, la France qui intervient en Afrique, qui intervient au Moyen-Orient, c'est aussi pour ces matières premières. Voilà, c'est aussi pour les capitalistes. Alors maintenant, je reviens à la question. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a une propagande massive de la part de l'État français et des politiciens de gauche comme de droite, qui consiste à dire vous marchez au pas, ok, mais qui joue aussi sur la division. Et parce que justement, c'est une manière, vous savez, ça, tout le monde l'a en tête, cette phrase, diviser pour mieux régner. Voilà. Et donc, c'est monter les uns contre les autres. Et c'est pas seulement la droite et l'extrême droite, c'est aussi la gauche qui parle de quotas de migrants. Enfin, de quoi on est en train de parler quand même? On est en train de parler de nos frères qui ont traversé des déserts et des Méditerranées, et la Méditerranée pour fuir la guerre et la misère dans leur pays. Bon, c'est avec eux qu'on travaille, c'est avec eux qu'on habite. Donc il y a cette division. Entre travailleurs immigrés et travailleurs français, mais c'est aussi des divisions entre intérimaires et embauchés, entre jeunes qui seraient soi-disant fainéants et vieux qui seraient soi-disant fainéants aussi, tant qu'à faire. Ça serait la faute des chômeurs s'il y a du chômage. Donc c'est une campagne qui vise finalement à faire que les classes populaires elles s'attaquent les unes contre les autres, pour pas s'en prendre aux vrais responsables de cette crise, du chômage, de la catastrophe qui s'aggrave jour après jour et des guerres qui menacent, ce sont les capitalistes, les grands patrons. Et les grands patrons, on en a sous la main ici en France, c'est des grands patrons français qui, en 2025, n'ont jamais fait autant de fric, y compris dans l'armement. Voilà. Donc ces gens-là, ils dirigent la société, ils s'en mettent plein les poches. Tous les moyens sont bons, la santé c'est un business, la guerre c'est un business. Et nous ce qu'on dit, c'est tant qu'eux ils seront à la tête de la société, on ira droit dans le mur. Les divisions que les patrons ils ont cherché à nous mettre dans la tête, il faut que ça saute, il faut que les travailleurs se regroupent. Justement, on travaille, on vit ensemble, qu'on se regroupe et qu'on prépare les luttes ensemble contre ces capitalistes et contre les politiciens à leur service.
Pour terminer, il nous reste une petite minute. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous voudriez insister ?
Le point sur lequel je voudrais insister, c'est sur le fait que ce qu'on nous prépare là, à nouveau, ça vient d'être évoqué, c'est il faudrait se serrer les coudes pour défendre le pays. Nous, on dit, les travailleurs de tous les pays doivent se serrer les coudes pour défendre leurs intérêts partout dans le monde contre les mêmes ennemis que sont les capitalistes, ici comme ailleurs.
Je voulais dire aussi que Abmajid et moi, on milite depuis des années. Alors moi, ça fait 15 ans que je milite. Majid, ça fait...
Un peu plus.
Ah, ça fait un peu plus, voilà. Moi, je voudrais juste dire quand même que j'y crois, en fait. J'y crois à un changement et à une société meilleure. C'est vrai que vu la situation, ce qu'on vit, ça paraît loin. Et les grandes luttes, elles paraissent loin. Moi, j'en ai jamais vu. Mais il y a quand même plusieurs choses qui me convainquent que c'est possible. D'abord, c'est que, je le redis, dans cette période de recul, on a réussi à monter des listes de travailleurs et de travailleuses, de chômeurs, de retraités qui sont en colère et qui veulent l'exprimer. Donc ça, c'est déjà une victoire. Et puis, il y a aussi quand même le fait que ben, les patrons, ils ne mettraient pas autant d'énergie à nous écraser, à nous diviser, à nous isoler, si finalement ils n'avaient pas conscience aussi de la force que représentent les travailleurs. Ben oui, les patrons, je pense qu'ils craignent les révoltes et qu'ils craignent que les travailleurs ils passent justement à l'étape de la lutte collective. Et puis, une dernière chose, ben, y a quand même, on parlait de la guerre dans le monde, etc. Mais il y a aussi dans le monde des révoltes. Il y a des travailleurs en Iran, à Madagascar, au Maroc et même aux États-Unis, voilà, qui se sont battus. Aux États-Unis, il y avait la police ICE qui s'attaquait aux étrangers et aux immigrés. Ben, c'est la population et les travailleurs de Minneapolis qui ont réussi à faire reculer la police. Voilà. Ben, pour moi, ça, c'est une preuve aussi que c'est possible, qu'on peut et qu'on va se battre. Voilà.